Les mémoires d'un âne, par la comtesse de Ségur, troisième cassette, première face, page 78.
Maman, pourquoi donc papa n'a-t-il pas cherché nos ânes ? Dit le plus jeune de la bande, qui trouvait le chemin long.
Parce que ton papa croit qu'ils ont tous été volés, et qu'il était alors inutile de les chercher.
Volés ? Par qui donc ? Je n'ai vu personne.
Ni moi non plus, mais il y avait auprès de l'arche des traces de pas.
Mais alors, maman, dit Pierre, il fallait chercher les voleurs.
C'eût été imprudent. Pour avoir pris 13 ânes, il faut qu'il y ait eu plusieurs hommes. Ils avaient probablement des armes. Ils auraient pu tuer ou blesser vos papas.
Quelles armes, maman ?
Des bâtons, des couteaux, peut-être des pistolets.
Oh, mais c'est très dangereux cela, dit Camille. Je crois que papa a bien fait de revenir avec mes oncles.
Et dépêchons-nous de rentrer à la maison, dit la maman. Les oncles et papa doivent aller à la ville en rentrant.
Pourquoi faire, maman ?
Pour prévenir les gendarmes.
Je suis fâchée que nous ayons été à ces ruines, dit Camille.
Pourquoi cela ? C'était très beau, répondit Madeleine.
Oui, mais très dangereux, reprit Camille. Si au lieu de prendre les ânes, les voleurs nous avaient tous pris.
C'est impossible, nous étions trop de monde, dit Henri.
Mais s'il y a beaucoup de voleurs, demanda Camille.
Nous nous serions tous battus.
Avec quoi ? Nous n'avons pas seulement un bâton, dit Camille.
Et nos pieds, nos poings, nos dents, dit Henri. Moi d'abord, j'aurais égratigné, mordu. Eh ben, le voleur t'aurait tué. Voilà tout, dit Pierre. Tué ? Et papa donc ? Et maman, reprit Henri. Tu crois qu'il m'aurait laissé emporter ou tuer ?
Les voleurs les auraient tués aussi, dit Madeleine.
Tu penses donc qu'il y en avait une armée ? Demanda Henri.
Mais quand il n'y aurait qu'une douzaine, s'écria Madeleine.
Oh, une douzaine, dit Henri, quelle bêtise. Tu crois que les voleurs marchent par douzaines, comme les huîtres ou les œufs ?
Tu te moques toujours, on ne peut rien te dire. Je parie, moi, que pour enlever 13 ânes, ils étaient au moins 12.
Ben, je veux bien, moi, et puis le 13e par-dessus le marché, comme les petits pâtés.
Les mamans et les autres enfants riaient de cette conversation, mais comme elle dégénérait en dispute, la maman dit à Henri de se taire et leur dit que Madeleine avait très probablement raison quant au nombre des voleurs. On arrivait près de la maison lorsqu'on vit revenir tout le monde à pied et moi, Cadichon, portant 4 enfants, la surprise fut grande. Mais quand les papas racontèrent la disparition des ânes, mon obstination à ne pas les laisser chercher les bêtes perdues, les gens de la maison secouèrent la tête et firent une foule de suppositions plus singulières les unes que les autres. Les uns disaient que les ânes avaient été engloutis et enlevés par les diables. Les autres prétendaient que les religieuses enterrées dans la chapelle s'en étaient emparées pour parcourir la terre. D'autres assuraient que les anges qui gardaient le couvent réduisaient en cendres et en poussière tous les animaux qui approchait de trop près du cimetière où erraient les âmes des religieuses. Aucun n'eut l'idée des voleurs cachés dans les souterrains. Aussitôt après leur retour, les trois papas allèrent raconter à la grand-mère le vol probable de leurs âmes. Ils firent mettre ensuite les chevaux à la voiture pour aller porter leur plainte à la gendarmerie de la ville voisine. Ils revinrent 2 heures après avec l'officier de gendarmerie et 6 gendarmes. J'avais une telle réputation d'intelligence qu'ils jugèrent la chose grave dès qu'ils surent la résistance que j'avais opposée au passage vers l'arche. Ils étaient tous armés de pistolets, de carabines, prêts à se mettre en campagne. Pourtant, ils acceptèrent le dîner que leur offrit la grand-mère et ils se mirent à table avec les dames et les messieurs. Chapitre 13. Les souterrains. Le dîner ne fut pas long. Les gendarmes étaient pressés de faire leur inspection avant la nuit. Ils demandèrent à la grand-mère la permission de m'emmener.
« Il nous sera bien utile dans notre expédition, madame, » dit l'officier. «
Ce Cadichon n'est pas un homme ordinaire. Il a déjà fait des choses plus difficiles que ce que nous allons lui demander.
Prenez-le, messieurs, si vous le croyez nécessaire, répondit la grand-mère. Mais ne fatiguez pas trop, je vous en prie. La pauvre bête a déjà fait la route ce matin et il est revenu avec 4 de mes petits-enfants sur son dos.
Quant à cela, madame, reprit l'officier, vous pouvez être tranquille. Soyez sûr que nous le traiterons le plus doucement possible. On m'avait donné mon dîner, un picotin d'avoine, une brassée de salade, carottes et autres légumes. J'avais bu, j'avais mangé, j'étais prêt à partir. Quand on vint me prendre, je me plaçai tout d'abord à la tête de la troupe et nous nous mîmes en route. L'âne servant de guide aux gendarmes. Ils n'en furent pas humiliés car ils étaient bonnes gens. On croit que les gendarmes sont sévères, méchants. C'est tout le contraire. Pas de meilleurs gens, de plus charitables, de plus patients, de plus généreux que ces bons gendarmes. Pendant toute la route, ils eurent pour moi tous les soins possibles, ralentissant le pas de leurs chevaux quand ils me croyaient fatigué et me proposant de boire à chaque ruisseau que nous traversions. Le jour commençait à baisser lorsque nous arrivâmes au couvent. L'officier donna ordre de suivre tous mes mouvements et de marcher tous ensemble. Mais comme leurs chevaux pouvaient les gêner, il les avait laissés dans un village voisin de la forêt. Je les menai sans hésiter à l'entrée de l'arche, près des broussailles d'où j'avais vu sortir les 12 voleurs. Pour les éloigner, je fis quelques pas derrière le mur. Ils me suivirent. Quand tous les gendarmes y furent, je revins aux broussailles, les empêchant d'avancer quand ils voulaient me suivre. Ils me comprirent et restèrent cachés le long du mur. Je m'approchai alors de l'entrée des souterrains et me mis à braire de toutes les forces de mes poumons. Je ne tardai pas à obtenir ce que je voulais. Tous mes camarades, enfermés dans les caveaux, me répondirent à qui mieux. Je fis un pas vers les gendarmes qui devinèrent ma manœuvre et je revins me placer près de l'entrée des souterrains. Je me remis à braire. Je devinai que les voleurs, pour empêcher mes camarades de les trahir, leur avaient attaché des pierres à la queue. Tout le monde sait que pour braire, nous dressons notre queue. Ne pouvant pas la dresser à cause du poids de la pierre, mes camarades se taisaient. Je restais toujours à deux pas de l'entrée lorsque je vis une tête d'homme sortir des broussailles et regarder avec précaution. Ne voyant que moi, il dit
« Voilà le coquin que nous n'avons pas pris ce matin. Tu vas rejoindre tes camarades, mon braillard. »
Mais comme il allait me saisir, je m'éloignai de deux pas. Il me suivit. Je m'éloignai encore. Jusqu'à ce que je l'eusse amené à l'angle du mur derrière lequel étaient mes amis les gendarmes. Avant que mon voleur eût eu le temps de pousser un cri, ils se jetèrent sur lui, le bâillonnèrent, le garrottèrent et l'étendirent par terre. Je me remis à l'entrée et je recommençai à braire. Ne doutant pas qu'un autre viendrait voir ce que devenait leur compagnon. En effet, j'entendis bientôt les broussailles s'écarter et je vis apparaître une nouvelle tête qui regarda de même avec précaution. Ne pouvant m'atteindre, ce second voleur fit comme le premier. Moi, j'exécutai la même manœuvre et le fis prendre par les gendarmes sans qu'il eût eu le temps de se reconnaître. Je recommençai ainsi jusqu'à ce que j'en eusse fait prendre 6. Après le sixième, Jubes au Braire, personne n'apparut. Je pensais que ne voyant revenir aucun des hommes qui allaient savoir des nouvelles de leurs camarades, les voleurs avaient soupçonné quelques pièges et n'avaient plus osé se risquer. Pendant ce temps, la nuit était venue tout à fait, on n'y voyait presque plus. L'officier de gendarmerie envoya un de ses hommes chercher du renfort pour attaquer les voleurs dans les souterrains et emmener garrotter dans une charrette les six voleurs déjà faits prisonniers. Les gendarmes qui restèrent eurent ordre de se partager en deux bandes pour surveiller les sorties du couvent. Moi, on me laissa agir à mon idée après m'avoir bien caressé et m'avoir fait les plus grands compliments sur ma conduite.
S'il n'était pas un âne, dit un gendarme, il mériterait la croix.
N'en a-t-il pas une sur le dos, dit un autre.
Tais-toi, mauvais plaisant, dit un troisième.
Tu sais bien que cette croix-là est marquée sur les ânes pour rappeler qu'un des leurs a eu l'honneur d'être monté par notre Seigneur Jésus-Christ.
Voilà pourquoi c'est une croix d'honneur, reprit l'autre.
Silence, dit l'officier à voix basse. Cadichon dresse les oreilles.
J'entendis en effet un bruit extraordinaire du côté de l'arche. Ce n'était pas un bruit de pas, on aurait dit plutôt comme un craquement et des cris étouffés. Les gendarmes entendaient bien aussi, mais sans pouvoir deviner ce que c'était. Enfin, une fumée épaisse s'échappa de plusieurs soupiraux et fenêtres basses du couvent. Puis quelques flammes jaillirent. Quelques instants après, tout était en feu.
Ils ont mis le feu dans les caves pour s'échapper par les portes, dit l'officier.
Il faut courir à l'éteindre, mon lieutenant, répondit un gendarme.
Gardez-vous-en bien, surveillons plus que jamais toutes les issues, et si les voleurs paraissent, feu de toutes vos carabines. Les pistolets viendront après.
L'officier avait bien deviné la manœuvre de ses voleurs. Ils avaient compris qu'ils étaient découverts, que leurs camarades avaient été faits prisonniers, et ils espéraient qu'à la faveur de l'incendie et des efforts des gendarmes pour l'éteindre, ils pourraient s'échapper et reprendre leurs amis. Nous vîmes bientôt les six voleurs restants et leur capitaine sortir avec précipitation de l'entrée masquée par des broussailles. Trois gendarmes seulement se trouvaient à ce poste. Ils tirèrent chacun leur coup de carabine.
Pan, pan, pan !
Avant que les voleurs eussent eu le temps de faire usage de leurs armes. Deux voleurs tombèrent. Un troisième laissa échapper son pistolet. Il avait le bras cassé. Mais les trois derniers et leur capitaine s'élancèrent avec fureur sur les gendarmes qui, le sabre d'une main, le pistolet de l'autre, se battirent comme des lions.
Pan, zim, pan, allez, t'es un crack, boum, parrain, oh, 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 ya, pan, pan.
Avant que l'officier et les deux autres gendarmes qui surveillaient le côté opposé du couvent eussent eu le temps d'accourir, le combat était presque terminé. Les voleurs étaient tous tués ou blessés, le capitaine se défendait encore contre un gendarme, le seul qui fut sur pied. Les deux autres étaient grièvement blessés. L'arrivée du renfort mit fin au combat. En un clin d'œil, le capitaine des voleurs fut entouré, désarmé, garrotté et couché près des six voleurs prisonniers. Pendant le combat, le feu s'était éteint. Ce qui avait brûlé n'était que des broussailles et du menu bois. Mais avant de pénétrer dans les souterrains, l'officier voulut attendre l'arrivée du renfort qu'il avait demandé. La nuit était bien avancée quand nous vîmes arriver six gendarmes nouveaux et la charrette qui devait emmener les prisonniers. On les coucha côte à côte dans la voiture. L'officier était humain. Il avait donné ordre de les débâillonner, de sorte que ces voleurs disaient aux gendarmes mille injures. Les gendarmes n'y faisaient seulement pas attention. Deux d'entre eux montèrent sur la charrette pour escorter les prisonniers, et on fit des brancards pour emporter les blessés. Pendant ces préparatifs, j'accompagnai l'officier dans la descente qu'il fit au souterrain, escorté de 8 hommes. Nous traversâmes un long corridor qui allait toujours en descendant, Puis nous arrivâmes dans les souterrains où les brigands avaient établi leur demeure. Un de ces caveaux leur servait d'écurie. Nous y trouvâmes tous mes camarades pris de la veille et qui avaient tous une pierre à la queue. On les en délivra immédiatement et ils se mirent à braire à l'unisson. Dans ce souterrain, c'était un bruit à rendre sourd.
« Silence, les âmes !» dit un gendarme. « Sans quoi nous allons vous rattacher vos breloques ?»« Laisse-les dire !» répondit un autre gendarme. « Tu vois bien qu'ils chantent les louanges de Cadichon. »« J'aimerais mieux qu'ils chantassent sur un autre ton !» reprit le premier gendarme en riant.
« Cet homme, assurément, n'aime pas la musique, » me dis-je à part moi. « Que trouve-t-il à redire aux voix de mes camarades ?»«
Ces pauvres camarades, ils chantaient leur délivrance. » Nous continuâmes à marcher. Un des souterrains était plein d'objets volés. Dans un autre, ils avaient enfermé des prisonniers qu'ils gardaient pour les servir. Les uns faisaient la cuisine, le service de la table, nettoyaient les souterrains. D'autres faisaient les vêtements et les chaussures. Il y avait de ces malheureux qui y étaient depuis 2 ans. Ils étaient enchaînés 2 à 2 et ils avaient tous de petits grelots aux bras et aux pieds pour qu'on pût savoir de quel côté ils allaient. Deux voleurs restaient toujours près d'eux pour les garder. On n'en laissait jamais plus de 2 dans le même souterrain. Pour ceux qui travaillaient aux vêtements, on les réunissait tous, mais le bout de leur chaîne était attaché pendant le travail à un anneau scellé dans le mur. Je sus plus tard que ces malheureux étaient les voyageurs et les visiteurs des ruines qui avaient disparu depuis 2 ans. Il y en avait 14. Ils racontèrent que les voleurs en avaient tué 3 sous leurs yeux, 2 parce qu'ils étaient malades, et 1 qui refusait obstinément de travailler. Les gendarmes délivrèrent tous ces pauvres gens, ramenèrent les ânes au château, portèrent les blessés à l'hospice et menèrent les voleurs en prison. Ils furent jugés et condamnés, le capitaine à mort et les autres à être envoyés aux travaux forcés pour tout le reste de leur vie. Quant à moi, je fus admiré par tout le monde. Chaque fois que je sortais, j'entendais dire aux personnes qui me rencontraient « C'est Cadichon, le fameux Cadichon, qui vaut à lui seul plus que tous les hommes du pays. » Chapitre 14, Thérèse. Mes petites maîtresses, car j'avais autant de maîtres et de maîtresses que la grand-mère avait de petits-enfants, avaient une cousine qu'elles aimaient beaucoup, qui était leur meilleure amie et à peu près de leur âge. Cette amie s'appelait Thérèse. Elle était bonne, bien bonne, la pauvre petite. Quand elle me montait, jamais elle ne prenait de baguette et ne permettait à personne de me taper. Dans une des promenades que firent mes jeunes maîtresses, elles virent une petite fille assise sur le bord de la route qui se leva péniblement à leur approche et vint en boitant leur demander la charité. Son air triste et timide frappa Thérèse et ses amis.
« Pourquoi boites-tu, ma petite ?» dit Thérèse. « Parce que mes sabots me blessent, mademoiselle. Pourquoi n'en demandes-tu pas d'autres à ta maman ?»« Je n'ai pas de maman, mademoiselle. À ton papa, alors ?»« Je n'ai pas de papa, mademoiselle. Mais avec qui vis-tu ?» « Avec personne, je vis seule. Qu'est-ce qui te donne à manger ? Quelquefois personne, quelquefois tout le monde. Quel âge as-tu ? Je ne sais pas, mademoiselle, peut-être bien 7 ans. Où couches-tu ? Chez celui qui veut bien me recevoir. Lorsque tout le monde me chasse, je couche dehors sous un arbre, près d'une haie, n'importe où. Mais l'hiver, tu dois geler. J'ai froid. Mais j'y suis habituée. As-tu dîné aujourd'hui ? Je n'ai pas mangé depuis hier. Mais c'est affreux cela, dit Thérèse, des larmes aux yeux. Mes chers amis, n'est-ce pas que votre grand-mère voudra bien que nous donnions à manger à cette pauvre petite et que nous la fassions coucher quelque part au château? Certainement, répondirent les trois cousines. Grand-mère sera enchantée. D'ailleurs, elle fait tout ce que nous voulons. Madeleine, mais comment faire pour l'amener jusqu'à la maison, Thérèse? Regarde comme elle boit. Thérèse, mettons-la sur Cadichon. Nous suivrons tout à pied au lieu de le monter deux à deux, chacune à notre tour. C'est vrai, quelle bonne idée, s'écrièrent les trois cousines.
Elles placèrent la petite fille sur mon dos. Camille avait encore dans sa poche un morceau de pain qui restait de son goûter. Elle le lui donna. La petite le mangea avec avidité. Elle semblait ravie de se trouver sur mon dos, mais elle ne disait rien. Elle était fatiguée, elle souffrait de la faim. Quand j'arrêtais devant le perron, Camille et Elisabeth firent entrer la petite à la cuisine pendant que Madeleine et Thérèse couraient chez la grand-mère.
« Grand-mère, dit Madeleine, permettez-nous de donner à manger une petite fille très pauvre que nous avons trouvée sur la route. »« Très volontiers, chère petite, mais qui est-elle ? » Je ne sais pas, grand-mère. Où demeure-t-elle? Nulle part, grand-mère. Comment nulle part? Mais ses parents doivent demeurer quelque part. Elle n'a pas de parents, grand-mère. Elle est seule. Voulez-vous permettre, ma tante, dit timidement Thérèse, qu'elle couche ici, cette pauvre petite? Si elle n'a réellement pas d'asile, je ne demande pas mieux, dit la grand-mère. Il faut que je la voie et que je lui parle.
Elle se leva et suivit les enfants dans la cuisine, où la petite fille achevait son repas. Elle l'appela, la pauvre petite approcha tout en boitant. La grand-mère la questionna et en obtint les mêmes réponses. Elle se trouva fort embarrassée. Renvoyer cet enfant dans l'état d'abandon et de souffrance où elle la voyait lui semblait impossible. La garder était difficile. À qui la confier? Par qui la faire élever?
« Écoute, petite, lui dit-elle, en attendant que je puisse prendre des informations sur ton compte et savoir si tu m'as dit la vérité, tu coucheras et tu mangeras ici. Je verrai dans quelques jours ce que je peux faire pour toi. »
Elle donna ses ordres pour qu'on préparât un lit pour l'enfant et qu'on ne la laissât manquer de rien. Mais la pauvre petite était si sale que personne ne voulait ni la toucher ni l'approcher. Thérèse en était désolée. Elle ne pouvait pas obliger les domestiques de sa tante à faire ce qui leur répugnait. « C'est moi, pensait-elle, qui ai amené cette petite. Ce serait moi qui devrais en avoir soin. Comment faire ?» Elle réfléchit un instant. Une idée se présenta à son esprit.
« Attends, ma petite, dit-elle. Je vais revenir tout à l'heure. »
Elle courut chez sa maman.
« Maman, je dois prendre un bain, n'est-ce pas ?» Oui, Thérèse, vas-y, la bonne t'attend. Maman, voulez-vous me permettre de faire baigner à ma place la petite fille que nous avons amenée ici? Quelle petite fille? Je ne l'ai pas vue. Une pauvre, pauvre petite qui n'a ni papa, ni maman, ni personne pour la soigner, qui couche dehors, qui ne mange que ce qu'on lui donne. La grand-mère de Camille consent à la garder, mais aucune des domestiques ne veut la toucher. Pourquoi donc? Parce qu'elle est si sale, qu'elle est dégoûtante. Alors, maman, si vous voulez bien, je la ferai baigner à ma place. Pour ne pas dégoûter ma bonne, je la déshabillerai moi-même, je la savonnerai, je lui couperai les cheveux, qui sont tout emmêlés et pleins de petites puces blanches, mais qui ne sautent pas. Mais ma pauvre Thérèse, toi-même ne seras-tu pas dégoûtée de la toucher et de la laver? Un peu, maman. Mais je pense que si j'étais à sa place, je serais bien heureuse qu'on voulût bien me soigner. Et cette idée me donnera du courage. Et puis, maman, voulez-vous me permettre, quand elle sera lavée, de lui mettre quelques-unes de mes vieilles affaires, jusqu'à ce que je lui en achète d'autres? Certainement, ma petite Thérèse. Mais avec quoi lui achèteras-tu des vêtements? Tu n'as que 40 ou 50 francs. Tout juste de quoi payer une chemise. Oh, maman! Vous oubliez mon billet de 500 francs. Celui que tu as donné à garder à ton papa pour ne pas le dépenser. Tu conservais pour acheter un beau lit de messe, comme celui de Camille. Je peux bien me passer ce beau livre de messe, maman. J'ai encore mon vieux. Fais comme tu voudras, mon enfant. Quand c'est pour faire le bien, tu sais que je te donne une entière liberté.
Sa maman l'embrassa et elle alla avec elle pour voir cette petite fille que personne ne voulait toucher. Si elle a quelque maladie de peau que Thérèse puisse gagner, se dit-elle, je ne permettrai pas qu'elle y touche. La petite fille attendait toujours à la porte. La maman la regarda, examina ses mains, sa figure, et vit qu'il n'y avait que de la saleté, mais aucune maladie de peau. Seulement, elle trouva ses cheveux si pleins de vermine qu'elle demanda des ciseaux, fit asseoir la petite sur l'herbe et lui coupa les cheveux tout court, sans y toucher avec les mains. Quand ils furent tombés à terre, elle les ramassa avec une pelle et pria un des domestiques de les jeter sur le fumier. Puis elle demanda un baquet d'eau tiède et avec l'aide de Thérèse, elle lui savonna et lava la tête de manière à la bien nettoyer. Après l'avoir essuyée, elle dit à Thérèse
« Maintenant, ma chère petite, va la faire baigner et fais jeter ses haillons, ça veut dire ses vieux vêtements, au feu. »
Camille, Madeleine et Elisabeth étaient venues aider Thérèse. Elles l'emmenèrent toutes quatre dans la salle de bain, la déshabillèrent malgré le dégoût que leur inspirait la saleté extrême de l'enfant et l'odeur qu'exhalaient ses haillons. Elles s'empressèrent de la plonger dans l'eau et de la savonner des pieds à la tête. Elles prirent goût à l'opération qui les amusait et qui enchantait la petite fille. Elles la savonnèrent et la tinrent dans l'eau un peu plus de temps qu'il n'était nécessaire. À la fin du bain, l'enfant en avait assez et témoigna une vive satisfaction quand ses quatre protectrices la firent sortir de la baignoire. Elles la frottèrent pour l'essuyer jusqu'à lui faire rougir la peau et ce ne fut qu'après l'avoir séché comme un jambon qu'elles lui mirent une chemise, un jupon et une robe de Thérèse. Tout cela allait assez bien parce que Thérèse portait ses robes très courtes comme le font toutes les petites filles élégantes et que la petite mendiante devait avoir ses jupons tombant sur les chevilles. La taille était bien un peu longue, mais on ne regarda pas de si près. Tout le monde était content. Quand il fallut la chausser, les enfants s'aperçurent qu'elle avait une plaie sur le coup de pied, c'est-à-dire sur la cheville. C'était cela qui la faisait boiter. Camille courut chez sa grand-mère pour lui demander de l'onguent, une pommade. La grand-mère lui donna ce qu'il fallait, et Camille aidait ses trois amies, dont l'une soutenait la petite, tandis que l'autre tenait le pied et la troisième déroulait une bande, lui mit l'onguent sur la plaie. Elles furent près d'un quart d'heure à arranger une compresse et la bande. Tantôt c'était trop serré, tantôt ce n'était pas assez. La bande était trop bas, la compresse était trop haut. Elles se disputaient et s'arrachaient le pied de la pauvre petite qui n'osait rien dire, se laissait faire et ne se plaignait pas. Enfin, la plaie fut bandée. On lui mit des bas et de vieilles pantoufles à Thérèse et on la laissa aller. Fin de la première face de la troisième cassette, page 96, Les mémoires d'un âne, par la comtesse de Ségur.